Chapitre 12 L'incertain amour. Doris Gray se trouvait en présence d'un douloureux dilemme. Sa position avait même quelque chose de tragique depuis l'ouverture du testament de son oncle. D'ailleurs, on en était à douter encore de la réalité de sa mort. Mais, vivant ou mort, il lui avait laissé un terrible problème à résoudre. Elle ne détestait certainement pas Frank Doughton, mais elle était peut-être trop jeune encore. Elle manquait de lumière sur les plus graves éléments de la vie, de l'amour et du mariage pour se décider en pleine connaissance de cause. Et alors Paul Tavaux, ce gentleman si courtois et raffiné, ce comte romain qui connaissait toute l'Europe, qui avait fréquenté les sociétés les plus aristocratiques des grandes capitales, cet homme fin, disert et spirituel, lui avait fait une très vive impression. Il vint un moment où elle n'aurait su dire qui elle préférait, du jeune Anglais ou du noble cosmopolite. Et même, à tout prendre, si elle avait eu à se défaciler sur le champ, la balance aurait penché en faveur du comte. Elle se disait aussi que son oncle n'avait pas le droit, par-delà la tombe, de lui imposer un mari, et elle en éprouvait un certain ressentiment. En fait, elle ne désirait pas encore se marier à tout prix. Elle préférait laisser la question irrésolue. Elle avait 5 ans devant elle avant d'être obligée de s'assurer des sentiments qu'elle pourrait éprouver pour ou contre Frank Doughton. Celui-ci ne lui était pas indifférent. Il y avait quelque chose de particulièrement vivifiant, réconfortant et rassurant en lui. Il était empressé, bon, plein de sympathie, oui, mais n'y avait-il pas certaines nuances auxquelles il restait étranger? D'ailleurs, elle eût été elle-même bien embarrassée le plus souvent s'il lui avait fallu définir ces nuances. Par une glorieuse matinée d'avril, elle se promenait seule à Green Park. Elle était d'humeur joyeuse, car tout autour d'elle, depuis les cimes des arbres jusqu'au moindre brin d'herbe, respirait le bonheur de vivre, de fleurir dans l'atmosphère enchantée du printemps. Ce matin-là, elle rencontra Frank. Il était si épanoui, lui aussi, si débordant de joie qu'elle ne put s'empêcher d'en sentir l'influence bienfaisante. Il l'avait aperçu le premier et hâta le pas pour la rejoindre. « Écoutez, lui cria-t-il, j'ai d'excellentes nouvelles !» « Asseyons-nous, » répondit-elle en lui désignant un banc près de là. « Et maintenant, voyons quelles sont ces merveilleuses nouvelles. Vous vous rappelez que M. Farrington m'avait chargé de retrouver l'héritier de Tollington ?»« Oui, eh bien. »« Eh bien, je l'ai retrouvé, ou presque, » répondit triomphalement le jeune homme. « Et c'est tout à fait extraordinaire pour quelqu'un comme moi, qui suis un bien piètre détective. » « J'avais bien prévenu M. Farrington de mon impuissance à rien découvrir d'intéressant, d'autant plus qu'il ne pouvait me fournir aucune donnée d'où l'on aurait pu partir. On savait seulement que le vieux Tollington avait un neveu, le fils d'une sœur décédée, et que la fortune revenait naturellement à ce neveu. Mais où l'affaire s'embrouillait, c'était à ceci. Cette sœur de Tollington avait été fiancée à un riche agent de change de Chicago. Or, la veille de son mariage, elle se vit enlever par un Anglais qui était reçu chez elle, mais que ses parents connaissaient fort peu. On estimait généralement que c'était un propre Arien venu en Amérique pour chercher fortune. Il se révéla, cependant, aventurier de marque peu commune, en tout cas, car il ne se borna pas à refuser toute communication avec les parents de la jeune fille, quoiqu'il les sût extrêmement riches, mais il les laissa même dans l'ignorance de son nom véritable. Il ressortit plus tard de l'enquête qu'il avait pris un faux nom en venant en Amérique. Dès ce moment, on n'entendit plus parler de lui. On sut vaguement qu'il était retourné en Angleterre avec sa jeune femme, et qu'il avait réussi, par son travail et sa persévérance, à se faire une assez bonne situation, croit-on. La jeune femme écrivait régulièrement à ses parents, mais sans jamais donner son nom entier ni son adresse. On devait lui répondre par l'intermédiaire des annonces du Times. De la sorte, il ne fut jamais possible de l'atteindre directement. Et quand ses parents moururent et que son frère reprit les recherches, il échoua complètement. Vous comprenez, conclut Franck un peu naïvement, il est bien impossible de découvrir quelqu'un dont personne ne sait même pas le nom.
Je vois, dit Doris. Et alors vous avez réussi là où tout le monde a échoué.
Oh, ne pourrait-on pas encore avoir réussi, répondit-il en riant, mais ce que j'ai découvert, c'est que l'homme qui a enlevé la sœur du vieux Tollington a vécu pendant quelques années à Bradley.
À Bradley, mais je connais cette petite ville, c'est là qu'habite Lady Constance Dex.
Oui, dit-il, tout le monde semble s'y être donné rendez-vous, même ce personnage.
Quel personnage?
Paul Tavaux. Oh, il paraît qu'il est l'hôte du docteur Fall à la maison magique. Tout le monde en Angleterre a entendu parler de cette extraordinaire demeure.
Je ne suis pas tout le monde, dit-elle, mais n'importe. Continuez votre récit. Comment avez-vous découvert que cet époux de Miss Tollington a habité Bradley?
Par pur hasard. Vous savez que j'ai demeuré moi-même quelques années à Bradley.
C'est là que j'ai fait la connaissance de votre oncle.
Oh, j'étais encore un gamin.
Mais c'est pas d'avoir vécu aussi dans cette remarquable cité qui m'a beaucoup aidé.
N'avez-vous pas vu récemment dans les journaux qu'en démolissant un vieil immeuble qui avait abrité longtemps le bureau de poste de Bradley, on a découvert tout un paquet de lettres qui avaient glissé dans une fente de la paroi, sous la boîte, et ainsi n'étaient jamais parvenus à destination.
« Oui, j'ai lu quelque chose de ce genre, » répondit Doris. « Ces lettres dataient de 40 ou 50 ans, n'est-ce pas ?»«
Oui, et l'une d'elles était adressée à Tollington par sa sœur. » Comme journaliste, j'ai pu avoir connaissance de cette lettre et en ai pris copie. Voici.
Il sortit de son portefeuille et lut à Doris la note suivante.
Mon cher Georges, un petit mot seulement pour te dire que nous sommes très bien et heureux. J'ai vu ta dernière réponse dans le Times et suis bien contente d'avoir eu ainsi de tes bonnes nouvelles. Henri t'envoie ses meilleurs messages. Ta sœur affectionnée, Annie.
Naturellement, ce n'est pas énorme, reprit Franck en repliant la lettre, car je pense bien qu'il y a toujours eu de nombreuses Annie à Bradley, mais enfin, c'est un premier point acquis.
En effet, dit-elle en souriant.
C'est que, reprit-il, cette affaire a beaucoup d'importance pour moi, ou du moins en avait. Car, par l'intermédiaire de votre oncle, j'avais conclu un arrangement extrêmement avantageux avec les exécuteurs testamentaires de Tollington.
« Oui, extrêmement intéressant, » répéta-t-il à dessein.
Elle le regarda vivement. « Auprès de vue pécuniaire ?» demanda-t-elle.
« Oui, d'abord, mais indirectement, à d'autres points de vue aussi. »
« Ah, Doris, » ajouta-t-il en baissant la voix. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous dire combien je déplore les termes du testament de votre oncle. Il est abominable que vous croyiez forcé d'agir d'une façon contraire à vos sentiments. »
Elle rougit légèrement et détourna les yeux.
« Je ne prétends aucunement profiter de cet état de choses. Je désire que vous ne veniez à moi que pour une raison, la grande, la seule qui compte, et non pour de misérables questions de gros sous. »
Elle ne répondit pas et il soupira profondément.
« C'est pourquoi, reprit-il, j'avais espéré être en mesure d'apporter un jour tout le luxe et le confort désirables à la femme que j'aime. »«
Mais cela ne ferait aucune différence, » dit-elle vivement.
« Oh si, » répliqua-t-il avec force, « car alors, vous comprenez, vous ne croiriez plus que c'est à votre fortune que j'en veux. » Mais que c'est à vous, à votre cœur seulement. »
Cette fois, elle tourna vers lui des yeux à la fois plus brillants et plus doux.
« Mais je n'arrive pas à voir clair en moi-même, » dit-elle. Mon propre cœur est un mystère pour moi. Certes, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais est-ce celle que vous cherchez? Je ne sais.
Y a-t-il quelqu'un d'autre? Demanda-t-il avec effort.
Elle évita son regard et se mit à jouer avec le manche de son ombrelle.
Non, dit-elle enfin, en tout cas, rien de définitif.
Mais possible, insista-t-il.
Oh, il y a toujours des possibilités de ce genre autour de nous, répondit-elle en parant adroitement le coup droit.
Mais je crois, Franck, que vous avez pour le moins autant de chance que quiconque.
Elle haussa les épaules.
Oh, je parle, reprit-elle, comme si j'étais une grande princesse à conquérir. Croyez bien que rien n'est plus loin de ma pensée. Je ne crois pas être orgueilleuse, et plus je vais, plus j'apprécie la modestie.
Ils se levèrent et sortirent du parc. Il l'accompagna jusqu'à un taxi et demeura immobile sur le trottoir, tant que la voiture fut en vue. La jeune fille elle-même était émue, mais indécise. Il lui aurait fallu quelques circonstances graves, quelques forts chocs inattendus pour libérer ses sentiments latents et lui faire voir clair en elle. En attendant, Paul Tavo l'influençait beaucoup. Sa belle prestance, sa voix agréable, toute sa distinction lui en imposaient de plus en plus. En arrivant chez elle, elle se disposait à monter droit dans sa chambre lorsque le valet de pied l'arrêta d'un air important.
« Il y a là une lettre très urgente, mademoiselle. Le porteur a insisté pour qu'elle vous soit remise en main propre le plus tôt possible. »
Elle prit la missive qui portait une inscription, son nom et son adresse, écrites à la machine. Elle déchira l'enveloppe dans laquelle s'en trouvait une autre où elle lut « Ne lisez cette lettre qu'une fois seule. Fermez bien votre porte et prenez soin qu'il n'y ait personne à proximité. » Ces mots étaient également dactylographiés. Elle fronça du sourcil. Qu'était-ce encore que ce mystère? Néanmoins, elle se prêterait volontiers à l'étrange requête. Elle alla s'enfermer dans sa chambre et ouvrit la seconde enveloppe. Alors elle étouffa un cri de surprise et pâlit, car en ces lignes tracées 7 fois à la main, elle reconnut l'écriture de son oncle. Il lui disait: « Je vous ordonne de vous marier avec Frank Dofton d'ici 7 jours. Ma fortune et ma vie en dépendent. » C'était lisiblement signé Gregory Farrington. Et au-dessous de la signature, il y avait encore « Brûlez soigneusement tout ceci si vous avez quelque égard pour moi. » M. Smith venait d'entrer dans le cabinet du préfet de police qu'il avait fait appeler.
« Quelle nouvelle m'apportez-vous ? » lui demanda celui-ci.
« Monsieur le préfet, je sais maintenant beaucoup de choses sur cette affaire, et sur de solides hypothèses, j'en déduis plus encore. »«
Bien, mais voyons d'abord les faits. »«
Le premier, monsieur le préfet, c'est que Gregory Farrington est encore en vie. Le cadavre repêché dans le fleuve doit être celui du cambrioleur blessé dans la tentative sur les entrepôts des douanes. Et l'hypothèse qui en découle est que le second cambrioleur n'était autre que Farrington et qu'il ne s'agissait pas là de voler quelques marchandises courantes, mais de s'emparer des papiers du docteur Galworthy, où devaient se trouver des choses très compromettantes pour Farrington, en particulier les preuves de ses torts envers quelqu'un qui ne lui pardonnerait pas.
Oh, vous faites allusion à Lady Constance Dex.
Oui, évidemment, Farrington est responsable de la mort du fiancé de Lady Dex. C'est lui qui a informé John Houghton du scandale qui avait atteint autrefois cette dame. Et lui, âme chevaleresque, est parti immédiatement pour l'Afrique. Tout cela, j'en suis convaincu, ressortait clairement des documents rapportés par le docteur Galworthy. Et Farrington pouvait s'attendre à la vengeance immédiate et terrible de Lady Dex. Avez-vous des preuves?
Oh, quelques-unes.
Voici surtout la copie d'une lettre de George Dalton à son ex-fiancée. C'est très important, et je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai dû recourir à un moyen un peu violent pour me procurer ce document. Le préfet sourit. « Je sais, dit-il, que la cure de Bradley a été cambriolée. Il y a quelques jours, je suppose que votre fidèle Sykes n'est pas étranger à cet événement. » « En effet, répondit M. Smith, mais j'arrive au second fait. C'est que Gregory Farrington et le maître chanteur international Montague Fallog sont une seule et même personne. » Le préfet fit un geste de surprise. « Vous êtes sûr ?»« Je le crois fermement. Les dispositions du testament de Farrington confirment cette opinion. Elles étaient faites pour nous dépister, mais avec quelque chose de trop achevé qui m'a donné l'éveil. De plus, de nouvelles lettres de chantage adressées récemment par Fallock à de grands personnages sont venues renforcer mes soupçons. » « Et où se trouve Fallock actuellement ?»« Il est l'hôte de la maison magique. »« Oh, où il doit être facile de l'arrêter, n'est-ce pas ?»« Oh, pas tant que cela, monsieur le préfet. »« Cette maison renferme plus de secrets que nous l'imaginons. »« Elle a été construite évidemment par un savant et habile homme, tel que précisément Farrington. » Son principal objet a dû être de se ménager des moyens de fuir en n'importe quelle circonstance. Et je suis parfaitement certain que tout à coup, notre force de notre part n'aurait d'autre résultat que de les faire fuir qui sait où. Il nous faut attendre. « Mais ce que je ne m'explique pas, dit le préfet, c'est ce qui lui a fait faire ce sensationnel et faux suicide. » « Oh, c'est simple, cependant, répondit M. Smith en souriant. Farrington ne se sentait plus en sécurité. Il se doutait que je l'identifiais avec Fallock. Il savait surtout que je soupçonnais fort de l'assassinat des deux hommes qui s'étaient disputés devant sa porte. Nous savons en effet qu'il faisait toujours venir de l'étranger les artisans ou spécialistes dont il avait besoin pour achever et perfectionner l'aménagement de sa fameuse maison de Bradley. Commencé il y a 30 ans, cet immeuble n'a été tout à fait complété que ces dernières années. Et ce sont ces derniers détails qui ont de l'importance. Or, j'ai découvert que les deux individus tués devant sa porte avait précisément été employé par lui à des ouvrages de précision électrique et mécanique. L'un était architecte, l'autre électricien. Tous deux avaient été bien payés et rapatriés une fois leur ouvrage fini. Mais ils découvrirent malheureusement pour eux quelle sorte d'homme était leur employeur. Et ils étaient revenus en même temps, quoique sans se concerter, pour se faire payer leur silence. Farrington Fallock admet lui-même qu'il surprit l'objet de leur querelle. Il se tenait derrière sa porte. Il s'avisa qu'il y avait là une excellente occasion de se débarrasser à la fois de deux menaçants personnages. Il entrebâilla à sa porte, les tua à coups de revolver, referma, alla replacer son arme dans un tiroir, et revint à temps pour accueillir le premier agent accouru. Mais en entrant chez lui, j'ai nettement senti l'odeur de la poudre qui n'avait pu se dissiper si vite dans le hall. Lady Deck se trouvait là aussi, et oh, elle a dû être témoin de tout. Mais pourquoi était-elle chez Farrington ? Oh, mon hypothèse est qu'elle était venue pour obtenir de lui confirmation de ce que les documents rapportés d'Afrique lui avaient appris sur la mort de George Dalton. Ceci n'explique pas le motif de Farrington pour disparaître comme il l'a fait. Il avait du crédit, il disposait de la fortune de sa nièce. Il aurait pu déjouer toutes vos recherches. Il n'est pas de ceux qui prennent pour peur pour si peu. « Là, oui, je le confesse, je me perds en conjecture, » dit M. Smith. « Cette comédie de suicide ne s'accorde pas avec ce que nous savons de son caractère. » il n'avait pas touché à la fortune de sa nièce. Et il semble que son affection pour elle fût bien réelle. Je ne vois pas ce qui l'a incité à agir ainsi. Et qu'allez-vous faire maintenant ? Bon, je vais me borner à faire surveiller étroitement la maison magique. Je ferai tout pour endormir sa méfiance et la tirer au dehors. Hors de cette damnée demeure, il sera bien habile s'il nous échappe. Et Poltavo ? Oh, Poltavo est de retour à Londres. Je crois qu'il sera plus facile à surprendre. Il sert d'agent à Farrington et il est d'une vanité effrayante.